de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, un sujet qui, j'ai l'impression, vous met mal à l'aise au regard de votre silence très inhabituel sur les réseaux sociaux. Nous parlons des rivalités féminines au travail. Est-ce que, finalement, travailler avec des femmes est plus difficile lorsque l'on est soi-même une femme? On s'attendrait à une relation plus humaine. Dans la réalité des entreprises, les femmes disent qu'il n'en est rien, c'est même pire, disent certaines d'entre elles. Un constat, finalement, peu politiquement correct, à l'heure où les femmes apparaissent d'abord comme des victimes de discrimination. Alors pourquoi certaines femmes ont-elles des relations plus difficiles avec leurs supérieurs hiérarchiques ou leurs collègues lorsque celles-ci sont des femmes? Pourquoi le harcèlement moral entre femmes se développe-t-il? Nous allons en discuter avec vous, Annie Couël. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite de psychologie sociale à l'Université Lyon 2 et vous publiez « Rivalité féminine au travail, l'influence de la relation mère-fille ». C'est une étude qui s'appuie sur de nombreux témoignages. Patrick Charnitsky, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychosociologue, consultant ressources humaines pour des entreprises. Vous avez notamment travaillé sur la diversité homme-femme dans le monde du travail, mais ça n'est pas la seule diversité. Et vous êtes également enseignant à l'école de commerce, le SCP Europe. Voilà. Alors, la femme est-elle un loup pour la femme? C'est à vous de nous répondre, les voisines. Si vous travaillez avec des femmes, quelles sont vos relations au quotidien? N'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler. Le numéro de téléphone, c'est le 33 1 84 22 71 71. Quand je vous disais que le sujet vous mettait mal à l'aise, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de messages, mais des messages privés, sous pseudonyme. Par exemple, Geneba, qui ne veut pas laisser son numéro de téléphone, nous raconte son histoire. « Je travaille dans un grand groupe », nous dit Geneba. « Avant de commencer à travailler dans cette boîte, je ne connaissais pas les rivalités entre femmes au boulot. J'ai une collègue qui est particulièrement jalouse de moi. Elle ne m'adresse même pas la parole, elle fait tout pour inventer des histoires sur moi auprès de mon patron. Heureusement que je fais bien mon boulot, c'est la seule raison d'ailleurs pour laquelle je travaille jusqu'à présent dans cette entreprise. Je suis en charge de tous nos gros clients. La fille va jusqu'à s'habiller comme moi, se coiffer comme moi et même acheter les chaussures que je porte. » Conclusion de Geneba. « Au début, je vivais cela très mal. Je voulais même quitter mon boulot. Maintenant, je m'en fous. Je fais juste mon travail. » Ça vous rappelle quelque chose peut-être, Annie Couël?
Oui, parce que j'entends dans ce que dit cette jeune femme, enfin que je présume jeune, c'est en tout cas surtout le fait que l'autre, la rivale en quelque sorte, s'habille comme elle, limite. Donc c'est de la jalousie, certes, de l'envie même peut-être, mais c'est de la rivalité sûrement telle que c'est vécu, en tout cas par celle qui nous écrit. Mais n'empêche qu'on voit qu'il y a tout de même quelque chose de la fascination et de l'identification à cette femme qui est vraisemblablement, apparemment d'après ce qu'elle écrit, plus compétente en tout cas. Je ne sais pas si elle a un poste hiérarchique supérieur, mais en tout cas elle est plus compétente.
Un autre témoignage, oui, d'Inès à Cotonou, au Bénin. Les frustrations mal refoulées finissent par sortir sous forme de petites querelles et les femmes, dont je suis, sont expertes en jalousie. Vous voyez le mot jalousie qui revient encore. Pour peu que l'autre soit plus coquette ou qu'elle soit plus appréciée par le patron, l'ambiance devient délétère dans le bureau et entre voisines à RFI, nous demande Inès. J'espère que vous ne vous disputez pas dans les coulisses entre deux émissions. Non, je vous rassure, ça va très très bien avec ma collègue Claire Hédon, Priorité Santé, juste avant les 7 milliards de voisins. Ou encore Docta, Kigali, Rwanda, j'attends avec impatience cette émission, mais vu de mon lointain coin d'homme, je peux oser dire que les femmes au travail se racontent toute leur vie privée entre elles. Mais quand le patron commence à poser des yeux baladeurs sur le derrière de l'une d'entre elles, celle-ci devient directement l'ennemi à liquider, car elles la connaissent comme leur chambre à coucher. Bon, je m'arrête ici de peur de dire n'importe quoi, conclut Docta, depuis mon pays des mille collines. Voilà. C'est tout de même assez intéressant. Je ne sais pas comment vous prenez les choses, Patrick Charnitsky.
Bah, en fait, dans le témoignage de ces trois personnes, il y a le point commun de la jalousie. Mais jusque-là, je ne suis pas sûr qu'on ait identifié le gène de la jalousie. Donc la jalousie n'est pas le monopole des femmes. Simplement, il va s'exprimer chez les femmes avec, comme c'est dit là, avec des aspects plutôt vestimentaires, etc. Chez les hommes, ça va être le téléphone portable. Donc là, pour le coup, ce n'est pas forcément lié au fait qu'elles soient des femmes. C'est juste qu'elles sont dans des organisations où forcément il y a de la compétition implicite. Quoi.
Vous nous appelez, on a vraiment envie de vous entendre maintenant de vive voix sur ce sujet qui est peu débattu dans les médias, il faut bien dire. 33 1 84 22 71 71.
Vous êtes au courant pour Jérôme Speed de la compta?
Non.
Quoi, encore malade? Non, bah lui, c'est mon record absolu d'arrêt maladie pour un nez qui coule.
Il est mort.
Ah. Et qui va récupérer sa place de parking?
Un peu de retenue tout de même, Déborah, merde, on parle d'un mort.
Enfin, c'est quand même la meilleure place du parking.
La place sera attribuée demain matin. Premier arrivé, première servie.
Et je compte pas me faire avoir comme ce matin. Morue.
Un extrait d'un film de peste, Working Girl. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage de Charlie, la trentaine. Elle travaille dans le monde du spectacle vivant. On est bien dans la vraie vie. Elle a aujourd'hui un métier qui lui plaît, Charlie, avec des collègues femmes, des supérieures femmes avec qui ça se passe très bien. Mais elle a confié ses premières expériences de cohabitation féminine professionnelle douloureuse à Alice Milo.
Il y a quelques années, j'ai été embauchée par une société de spectacle vivant. On faisait de la tournée et j'ai eu un problème avec une de mes collègues. C'était lié un peu à une rivalité par rapport à notre patron qui lui était un homme. Lui, il induisait un peu ça aussi parce qu'il avait un rapport un peu paternaliste. C'était un peu le papa de la maison en fait. C'était une petite structure. On était une petite dizaine, je pense. La personne avec qui j'étais en rivalité, en l'occurrence, tous les jours, elle venait au conflit. Elle me hurlait dessus très souvent. Elle me rabaissait systématiquement. On partait sur des festivals, on travaillait dans la musique. C'est arrivé qu'elle me présente en disant, bon bah, elle présentait tous les gens autour de nous et elle dit, bah, Stéphanie qui fait toutes nos merdes par ailleurs. J'avais peur de l'appeler. Quand je savais qu'elle allait arriver au bureau, je me sentais hyper oppressée. Toujours pas dans les mots aussi, en fait. Mais il y a une attitude, il y a une manière de parler à quelqu'un, il y a une manière de lui jeter des choses sur son bureau. Et franchement, à la fin, je me sentais maltraitée, en fait. Le boss était carrément au courant, en plus, parce que lui, il me disait, donc, je sais pas ce que tu lui as fait, mais elle t'aime pas. Et il le disait en souriant. Il savait très bien que je lui avais rien fait. Il savait que j'en souffrais. Si je suis partie, c'est que j'étais, mais à la fin, j'étais vraiment déprimée, j'en pouvais plus et je me sentais vraiment harcelée. Finalement, quand tu travailles dans un milieu un peu féminin, t'as rien à faire quasiment pour que les femmes se détestent. Du coup, c'est plutôt pratique parce que plus tu divises et mieux tu règnes. Donc,
Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est finalement votre patron, ça l'arrangeait cette situation?
Oui, ouais, voilà. En tout cas, c'était pas contre lui qu'on allait se soulever puisqu'on n'allait pas s'allier clairement. Ça, c'était sûr, quoi.
Quel était l'enjeu de cette rivalité?
À aucun moment, je pouvais lui piquer sa place, puisque, en l'occurrence, j'en voulais pas, et elle le savait. Et on faisait pas le même boulot, mais je pense qu'il m'aimait bien, que j'en avais pas conscience au moment où j'étais là-bas, et que c'était la base du problème, en fait. Elle savait qu'il m'aimait bien, et du coup, ça la dérangeait, je pense.
Elle était jalouse?
Bah, c'est une forme de jalousie, ouais. L'enjeu, c'était ça, en fait. Être le plus proche de lui, il fallait que ce soit la préférée. Je pense pas que le fait qu'il m'appréciait faisait qu'il la dépréciait, elle.
Que vous soyez aimée, ça lui donnait le sentiment qu'elle était moins aimée,
mais
elle.
Ouais. C'est curieux, mais c'est vrai. Je dirais pas qu'elle était amoureuse de lui, je pense pas du tout que ce soit le cas. Mais par contre, c'est moche ce que je veux dire, mais en fait, j'ai toujours pensé que c'est parce qu'elle avait une vie hyper triste. Je sais pas, un vide dans sa vie personnelle. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours pensé ça en ce qui la concernait, qu'il y avait un vide et que du coup, ça la faisait un peu exister aussi de...
De s'en prendre à vous.
Ouais. C'est difficile à expliquer, mais ça se sent que c'est féminin et que c'est pas un rapport que tu pourrais avoir avec un homme, en fait. Il n'y a pas cette compétition-là, il faut être la préférée, il faut être la meilleure, je sais pas, il faut apporter un truc. Et les cancans entre les femmes et les sourires quand on se voit, mais ensuite tous les ragots, enfin...
L'hypocrisie
au travail, ouais, c'est très féminin, je pense, ouais. Il y a vraiment un profil de femme comme ça qui semble vraiment avoir besoin de créer un mauvais climat dans le travail, qui s'épanouit dans le conflit, dans les cancans... Et qui adorent ça, enfin, profondément. D'ailleurs, ça se sent, elles ont besoin de trouver une alliée avec qui elles vont pouvoir...
Dire du mal des autres.
Dire du mal des autres, ouais, voilà, mais quel soulagement. Et en fait, là, peut-être que ça existe chez les hommes, hein, mais je pense que c'est un trait plus féminin, quand même. Avec le recul, je me dis que forcément, j'ai induit ça quelque part, forcément, en fait.
Vous vous sentez coupable?
Je me suis laissée faire un peu, ouais. Plus je m'écrasais, et du coup, plus elle gagnait, et plus elle grignotait du terrain, et finalement, plus elle me grignotait moi. Elle a gagné, en fait. Enfin, c'est parti d'une rivalité, mais elle a fini par m'écraser quand même, en fait.
Annie Couel et Patrick Charnitsky, que vous évoque ce témoignage?
Beaucoup de choses, hein. C'est très riche, effectivement. Donc, ce que je retiens de ce qu'a dit cette Charlie, donc, elle a dit que le patron, je crois que je suis tout à fait d'accord avec elle, il divisait pour mieux régner. Et d'ailleurs, il utilise une phrase, il dit « Tu as vu, elle t'aime pas ». Et c'est effectivement ce que reproche Charlie en disant « Ben oui, elle se sentait moins aimée, etc. » C'est-à-dire en termes d'amour.
Sous couvert de l'humour. Hein.
Voilà. Oui, sous couvert de l'humour. Mais non, parce que le poids des mots, n'est-ce pas? Le mot « amour », c'est pas rien. Donc je pense que c'est ça qui joue. C'est-à-dire vraiment la façon dont le patron ou de l'homme auprès de quel on essaye d'avoir une séduction utilise la chose. Si on a le temps, mais moi j'ai un témoignage qui est beaucoup plus rose, si je puis dire, où justement les femmes ont lutté contre ça. Donc c'est, nous avons peut-être du côté des solutions.
Contre l'homme qui cherche à diviser,
en fait, un homme, donc c'était une femme qui avait une secrétaire sous sa direction à elle, et puis au-dessus il y avait un homme supérieur, on peut dire, en termes hiérarchiques, bien sûr, à L2. Et la secrétaire a demandé une autorisation au super-chef. Et le super-chef a répondu « Ah, mais moi, je suis d'accord, mais c'est elle qui veut pas. » Alors que ce n'était pas vrai. Et du coup, ça fait évidemment bisbille. Et lorsque raconte cette femme, elle dit « Elle m'en voulait à moi, et lui, ça lui permettait de la serrer un petit peu plus près dans les coins. » Alors, c'est pas le cas de Charlie, où elle dit que ce n'est pas de la séduction sexuelle, mais c'est très souvent ça.
Oh là
tout
là,
même.
C'est
donc,
compliqué, là.
Il a joué ce rôle tout le temps, jusqu'à ce qu'on le prenne bien en compte toutes les deux et qu'on puisse dépasser ça. Et grâce à ça, ça nous a obligés à grandir, de ne plus demander de tiers, s'assumer soi. On a toujours parlé, c'était obligé, c'est ce qui nous a sauvés, sinon on se serait tapé dessus. Donc je crois que ça, c'est très important.
Mettre des mots sur ce qui se passe.
Voilà, ces femmes se sont rendues compte de la manipulation et ont pu parler.
Patrick Charnitsky.
Alors, il y a une autre lecture, mais qui est complémentaire de celle qui vient d'être faite par Annie Coel. Le boss qui laisse faire, c'est pas forcément quelque chose qui est si stratégique que ça, et aussi quelque chose qui est juste du plaisir assez archaïque d'être le coq dans la basse-cour. La répartition des hommes et des femmes dans les entreprises fait que plus on monte dans la pyramide et plus il y a d'hommes. Et du coup, on est très souvent dans des situations où le chef dirige une équipe de femmes. Donc, à partir du moment où elles se battent pour lui, ah oui, évidemment que c'est valorisant, il est le chef, évidemment qu'il laisse faire. Mais c'est pas forcément avec la stratégie de diviser pour mieux régner. C'est aussi parce que c'est juste un plaisir assez basique d'être le chef.
Et que ça marche.
Et que ça marche.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Vous nous appelez les voisines et les voisins au 33 1 84 22 71 71. Une voisine vient de nous appeler d'Abidjan. Eva, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis de vous accueillir.
Vraiment.
Et c'est peut-être parce que j'ai dit que le sujet m'était mal à l'aise, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous présentez comme entrepreneuse. Que vous est-il arrivé?
Bon, en fait, moi, quand j'ai arrêté les études, j'ai travaillé sur un projet. On a d'abord fait les études de terrain avec financement OMS. Et quand on a fini, le sociologue a monté un projet et il m'a fait appel. Et quand je suis arrivée, on a commencé à travailler. Un an après, il a fait venir une assistante sociale qui l'a nommée comme étant responsable du projet. Bon, nous tous, on savait par son comportement, par ses agissements, on savait qu'elle était passée dans le lit du sociologue.
Oui.
Et pour elle, le fait que j'étais la seule femme sur le projet, automatiquement, j'étais passée sur le même chemin qu'elle. Bon, tout le temps, il y avait des rivalités, tout ce qui était mauvais, tout ce qui était déplacé, c'est moi qui faisais. Et moi, ça m'agaçait. Alors, bon, moi, à la fin, j'ai préféré partir pour éviter les histoires, parce que, bon, moi, de nature, je n'aime pas les rivalités. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc, j'ai préféré partir en comité. Et puis, bon, Dieu merci, je me suis lancée dans la vie. J'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs en bâtiment et je me suis formée, j'ai essayé de prendre des cours par-ci, par-là. Et puis bon, Dieu merci, aujourd'hui, je suis dans le bâtiment.
Ah mais alors attendez, vous êtes dans le bâtiment, alors vous travaillez avec des hommes, là, pour le coup, Eva, non?
Oui, je suis très à l'aise, parce qu'avec les hommes, il n'y a pas de jalousie. Bon, en tout cas, moi, je suis à l'aise avec les hommes, mais pas avec les femmes.
Ouais, et très, très à l'aise, il n'y a pas de jalousie, comme vous le dites. Et du coup, là, vous maintenez à distance le possible harcèlement sexuel, si je comprends bien.
Non, là, il ne peut même pas avoir d'harcèlement. Parce que les gens, ils travaillent pour moi.
Oui, c'est ça. C'est vous la patronne.
La patronne.
Oui, ouais. Moi, je leur donne des ordres. Et puis quand je viens, bon, le climat, il est bien. Parce que je ne permets même pas. Parce que je suis mariée, ils connaissent mon mari, ils connaissent mes enfants. Donc, je n'ai pas de problème avec les hommes. Les plus jeunes, je les considère comme mes enfants. Quand j'arrive, bon, tout le monde, c'est la vieille mère, la maman.
Ah bon, oui, vous êtes la tante, c'est ça, oui.
Non, la vieille mère, je suis la vieille mère.
La vieille mère,
je suis la mère de tout le monde. Voilà.
Merci Eva pour ce témoignage. Ça correspond bien à une réalité. Je ne sais pas si ça répond au message charmant posté par Laure Mbolo sur le fil Facebook qui nous dit « Réaction à votre introduction, ça c'est pour moi. Le sujet vous met mal à l'aise, c'est ce que j'ai dit au début de l'émission. Vu le peu de réponses qu'on avait sur les réseaux sociaux, c'est peut-être un sujet qui n'intéresse pas les auditeurs. Sachez vous remettre en question. » Très sympathique. Et ensuite, point 2, mais on aime les critiques, hein, vous savez RFI. À propos des femmes au travail, poursuit donc cet internaute sous pseudo, on pourrait s'attendre à plus d'humanité, c'est ce que j'ai dit aussi. Et pourquoi vous partez du principe que les femmes sont plus sympas, cool ou humaines que les hommes? C'est du sexisme, pas plus. Moi, je suis un homme, je bosse indifféremment avec homme ou femme, mais je sens que je vais m'amuser des clichés que je vais entendre. Alors, est-ce qu'on vient d'entendre uniquement des clichés? Eva qui vient nous appeler en direct d'Abidjan, ou encore le témoignage recueilli de Charlie. Comment vous prenez ça, vous, les professionnels du sujet?
C'est toujours compliqué de faire la différence entre ce qu'est une idée originale et ce qu'est un cliché, parce que par définition, plus les idées s'accumulent et plus elles deviennent des clichés. Donc bien sûr que c'est toujours difficile de trancher entre les deux. Après, il y a une réalité des faits, il y a des témoignages qui s'accumulent. Annick l'a fait dans son livre, on en a tous les jours. Bon, donc, pour autant, ça ne veut pas dire que...
C'est une généralité, bien évidemment. Mais Annick ou elle, justement, comment vous avez eu l'idée d'étudier les rivalités féminines au travail? Ça se fait très peu.
Ça se fait très peu.
Il n'y a pas de livre sur ce sujet.
Oui, il y a peu de livres pour l'instant, mais il y a beaucoup d'expériences de tas de gens, comme on l'entend là maintenant, mais qui sont effectivement tenus un peu à carreau, je dirais, parce que les femmes, en fait, elles viennent d'arriver relativement, depuis relativement peu, sur le marché du travail, que ce soit avec vos auditrices ou que ce soit ici aussi en France. Donc, les femmes n'ont pas l'habitude de la concurrence au travail. Donc, elles ont tendance à vivre ça, à ramener ça à des expériences passées de la vie quotidienne, ce qui n'est pas forcément inintéressant, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Donc, ça, je crois qu'il faut prendre ça vraiment en compte. Et elles sont à des positions, Patrick vient de le dire, je crois, hiérarchiques inférieures, puisque le pouvoir est chez les hommes. Or, les gens, quand ils sont dans des positions inférieures, ils ont tendance, hélas, plus à s'entretuer qu'à être solidaire. C'est même ça le problème. Donc elles sont encore, les femmes, dans tous les pays du monde, dans des positions inférieures qui font qu'elles sont en concurrence. On les met en concurrence et elles le sont objectivement. Parce qu'il est plus dur pour une femme d'arriver à des postes supérieurs que pour un homme. Donc c'est, la lutte est plus dure. Et ce qui est dommage dans la jeune femme là qu'on vient d'entendre, Eva juste
Abidjan,
avant,
mais
la solution c'est de partir comme elle l'a fait. Parce que c'est trop dur. Mais je pense vraiment que la solution c'est de parler avec les autres femmes qui des fois se rendent compte elles-mêmes de leur violence à ce moment-là. Alors comment la question que vous posiez c'était comment j'en suis venue là, c'est justement avec les étudiantes que j'avais, qui est à l'université en psychologie du travail, en tout ce qui est management et autres, et qu'elles étaient extrêmement étonnées de la violence. Elles arrivaient en me racontant...
Dans les stages en entreprise?
Oui, c'est ça, dans les stages. Et elles avaient souvent, comme elles sont, les femmes qu'elles avaient comme supérieures étaient tout même pas encore tout à fait au top niveau, et elles comptaient beaucoup sur une solidarité féminine qu'elles ne trouvaient pas. Et même ça pouvait être très dur, sous des apparences de « on s'aime, on est gentil », etc. Et ça, c'était extrêmement délétère, parce qu'elle croyait que tout allait bien se passer, puis hop, au moment du jury, ça pouvait être épouvantable.
Ouais, mais l'ambivalence des relations humaines au travail n'est pas propre aux femmes.
C'est propre à l'humanité, finalement.
Oui, on les retrouve partout, sauf que en étant un homme ou une femme, factuellement, on n'a pas le même pouvoir. On n'a pas accès à les mêmes postes, même poste. Donc ça veut dire que statistiquement, les femmes sont encore aujourd'hui dans des postures d'infériorité, alors même que la société, par le cadre légal, le cadre moral, leur dit tous les jours, vous avez le droit, vous êtes compétente, il faut revendiquer, mais factuellement ça ne se fait pas. On peut prendre un chiffre simple, hein, dans le secteur bancaire, recrute 60% de femmes, il en reste moins de 3% dans les comités exécutifs.
Vous restez avec nous tous les deux, Annick Houël et Patrick Charnitsky. Rivalité féminine au travail, c'est le sujet. Alors si le sujet ne vous déplaît, bien évidemment, il faut changer de chaîne. C'est la première fois en tout cas qu'on en parle dans l'émission et vous avez la parole, les voisines et les voisins bien sûr, au 33 1 84 22 71 71, 7 milliards de voisins. On revient dans un peu plus de 3 minutes, juste après le flash sur RFI.
RFI Lens, RFI Challenge App Afrique.
De réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
« 7 milliards de voisins, on est ensemble ».
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, suite de l'émission sur les rivalités féminines au travail avec le livre, votre livre Annie Couel, vous êtes psychologue, vous publiez Rivalité féminine au travail, l'influence de la relation mère-fille. C'est vrai que la relation entre les âges, les relations générationnelles sont évoquées également dans les témoignages que nous recevons. Patrick Charnitsky, vous êtes avec nous également dans le studio, vous êtes psychosociologue, consultant en ressources humaines pour les entreprises. Ça bouge beaucoup sur le fil Facebook, Jamel nous poste ce message. Alors, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui écrit, vous savez, sur Facebook, c'est toujours un peu mystérieux. Je suis au Burkina Faso, nous dit-il, ou nous dit-elle. J'ai 35 ans, je travaille dans le domaine de la justice. J'ai vécu le calvaire pendant 3 ans avec 3 subordonnées et ES, 3 femmes. Donc, toujours des disputes. Dès que je tournais le dos, le pire, c'est qu'elles se liguaient toujours à 2 contre la 3e et les alliances changeaient fréquemment. Un jour, elles en sont même venues aux mains. Je n'osais même plus quitter le bureau pendant les heures de service. Et paradoxalement, les hommes du service étaient soudés et avaient décidé de ne pas se mêler de ces bisbilles. Choix des mots, attention. Heureusement que nous avons réussi à les envoyer dans des villes différentes. L'atmosphère était brusquement devenue plus respirable. Longue vie à l'émission. Que pensez-vous de ce témoignage ?
Bah, au-delà de l'anecdote, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à aucun moment... Il ou elle, en tout cas, il se pose la question de comment cette situation a été créée. Enfin, je veux dire, cette situation, elle peut aussi avoir une origine dans la façon dont on les manage, dans la façon dont la pyramide est organisée. Et il y a peut-être aussi une cause extérieure à cela qui produit le fait qu'elles sont en conflit.
Alors justement, Patrick Charnitsky, vous vous dites beaucoup, finalement, on est, enfin vous et pas seulement, le monde du travail aujourd'hui, quel qu'il soit, quels que soient les pays d'ailleurs, est un monde dominé par le modèle masculin. Est-ce que ça joue pour ce problème des rivalités féminines ?
Ah bah bien sûr, parce que c'est les normes de l'entreprise sont encore masculines, et quand je dis masculine, Annick le reprendra, mais c'est une question de genre, c'est-à-dire que c'est une norme qui s'applique aussi aux hommes. C'est-à-dire qu'un homme peut être aussi contraint à avoir des comportements masculins, alors même que peut-être spontanément il ne les aurait pas. Donc évidemment que comme ces normes sont sur la combativité, sur la rivalité, sur le pouvoir, évidemment que ça exacerbe encore plus. Et quand vous mettez des femmes, quand vous confrontez des femmes à ces enjeux-là, elles sont obligées de se dénaturer et d'être dans des identités qui ne sont pas les leurs.
Mais sous-entendu, une femme qui monte dans la hiérarchie, elle monte parce qu'elle a ces qualités dites masculines que vous avez énumérées, et non pas tout simplement parce qu'elle a une compétence dans son métier ?
Alors, clairement, c'est pas toujours le cas, mais souvent, les femmes, inconsciemment, finissent par internaliser ces normes masculines quand elles doivent monter dans la pyramide, dans l'entreprise, parce qu'elles comprennent qu'en ayant leur propre code, elles sont pas entendues. Donc elles finissent par ce que dans l'entreprise, on appelle le processus de masculinisation.
Annie Couel.
Oui, et puis c'est souvent, pour enchaîner avec ce que vient de dire Patrick, à compte... contre leur propre désir d'une certaine façon. Elles en souffrent en même temps.
Mais inconsciemment ?
Oui. Enfin, c'est pas tout à fait inconscient. C'est des fois inconscient, mais c'est plus ou moins conscient. Mais elles savent qu'elles sont obligées, effectivement, de jouer ce jeu-là. Et c'est un peu à contre-cœur. C'est-à-dire qu'en même temps, elles savent bien qu'elles se fâchent, qu'elles se coupent des autres femmes et qu'elles vont. Et du coup, ça va mal se passer. Elles comprennent très très bien ça. Mais elles sont obligées, relativement, si elles veulent monter. La compétence, elles l'ont. Elles peuvent pas être à ces positions-là si elles ont pas la compétence. Donc c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est de jouer le rôle de l'entreprise au masculin, comme vient de dire Patrick. Et au bout d'un moment, quand elles montent très très haut, elles quittent cette position. Parce qu'elles sont suffisamment dans le pouvoir pour pouvoir dire, bon, maintenant, ça va. Je suis reconnue. Et maintenant, je vais aider des femmes. Et ça se voit maintenant, un petit peu. En tout cas, en Europe, hein.
Vous nous appelez les voisines et les voisins au 33 1 84 22 71 71. Nous abordons en marchant sur des œufs, c'est vrai, ce problème des rivalités féminines au travail. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine à Dakar au Sénégal. Bonjour Sissi.
Bonjour Emmanuel, c'est Fifi.
Oui. Vous avez 30 ans, vous êtes assistante de direction et vous vous sentez critiquée par vos collègues plus âgés. Il s'agit de femmes.
C'est ça, oui. Tout à fait.
Alors, racontez-nous.
Est-ce qu'on vient fraîchement de me recruter au mois de juillet. Elles ont l'âge de ma maman, donc elles ne peuvent pas porter ce que je porte. Du coup, elles font des trucs pour me mettre en mal avec mon patron en critiquant mon boulot, alors que je fais trop bien mon boulot, parce que Elles ont fait l'ancienne formation, moi j'ai fait une nouvelle formation, donc c'est pas la même chose.
Oui, donc vous vous sentez plus compétente.
Notre formation, c'est plus rapide. C'est ça.
Vous êtes plus rapide, plus efficace, et ces femmes sont plus âgées. On sent un peu, vous ne le dites pas vraiment, mais quoi, il y a de la jalousie dans le fait que vous êtes plus jeune.
Tout à fait. Et elles me font voir de toutes les couleurs.
C'est-à-dire
elles se cachent pas.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire quand elles vous en font voir de toutes les couleurs? Vous pensez à quoi?
Elles disent à mon patron que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes par-ci, alors que c'est pas ça. Si on vérifie, on trouve qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Donc, c'est du temps perdu.
C'est...
Et après, mon patron, il commence à comprendre. Parce que des fois, il m'appelle dans son bureau pour me parler d'elle. Et je me mets à rire.
Ouais.
Et lui, il est étonné.
Ouais. Donc, vous prenez les choses avec une...
Il comprend qu'il y a des rivalités.
Mais quand vous dites que vous vous mettez à rire dans le bureau de votre patron, c'est que vous prenez les choses avec une certaine distance ou malgré tout, vous souffrez de cette situation?
Oui, mais maintenant, je prends ça avec maturité parce qu'elles ne peuvent plus m'atteindre.
Oui, maturité avec ces femmes plus âgées qu'elles, plus âgées que vous, qui vous jalousent, semble-t-il, pour votre jeune âge. On va demander à Annick ou elle de nous aider à y voir plus clair, et puis peut-être vous allez pouvoir dialoguer avec elle si vous recherchez des solutions pour maintenir ces collègues femmes plus âgées à distance, Annick ou elle.
Oui, en tout cas, ce qu'il y a de sympathique dans ce témoignage, c'est que cette jeune femme, justement, là, elle dit « moi, je pars pas ». Elles mourront pas d'une certaine façon grâce à maturité, ce qui est vraiment un progrès qui, je pense, les jeunes, effectivement, peuvent peut-être mieux analyser. Alors, si elle se sent effectivement peut-être plus sûre aussi, c'est parce qu'elle a, si j'ai bien compris, un niveau de diplôme supérieur qui lui permet de tenir les autres un petit peu au calme. Alors, si elle est jalousée, parce que je crois qu'effectivement, elle est jalousée, d'abord parce qu'elle est plus jeune, parce que c'est jamais drôle. Pour les hommes aussi, mais pour les femmes plus particulièrement, pour des raisons tout à fait sociologiques classiques, mais de se voir vieillir et d'en voir une jeune arriver sur le marché, on va dire, du travail et éventuellement sur le marché de la séduction. Et en plus, cette jeune femme, si j'ai bien compris, elle est très proche du patron. Si elle est si elle est assistante de direction, c'est elle qui est la plus proche. Donc, en fait, les autres femmes sont dans cette recherche. Souvent, ce qui se passe dans le monde du travail, c'est de rechercher l'aile du pouvoir. L'aile du pouvoir qui est masculin. Donc, elles vont titiller de ce côté-là.
Mais en même temps, quand on entend votre témoignage, on a l'impression tout de même, je ne sais pas si c'est Sissi ou Fifi, si je prononce bien, je ne sais pas si j'ai le bon prénom, mais en tout cas, que c'est quand même un immense gâchis finalement dans les relations humaines. Hein. Alors, comment on pourrait pacifier ces relations-là?
Alors, j'ai noté dans le témoignage de Jamel, le témoignage précédent, que ce monsieur, si c'est un monsieur, ou en tout cas, mais c'est une femme, c'est pareil, il disait il fallait que je fasse attention, je restais dans mon bureau et tout, mais jamais, on a mis les femmes dans des villes différentes, mais jamais personne n'a dit il faudrait les aider. Faudrait les aider à comprendre ce qui se passe, faire de la médiation, alors ce qu'on fait automatiquement avec les hommes quand ils s'entretuent, mais avec les femmes, pas du tout. On dit c'est naturel,
pourquoi
c'est du cancan,
etc. Le crépage de chignon,
et puis
c'est
surtout des hommes, des femmes, il y en a autant qu'on veut sur le marché.
Il faut peut-être apprendre à Jamel à manager.
Voilà, oui, c'est ça. Mais
enfin, en tout cas, l'accompagner.
Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire à notre auditrice là de Dakar, qui tout de même, même si elle prend les choses avec une certaine maturité, comme elle nous dit, bien qu'elle soit la plus jeune, mais mieux formée, forcément, je pense qu'elle a envie que les relations se passent mieux, c'est quand même plus agréable au quotidien.
Oui, oui. Faut qu'elle leur parle. En disant, mais arrêtez,
est-ce que vous avez essayé de leur parler, quand vous êtes au bureau, là, avec vos collègues femmes plus âgées qui vous jalousent, etc. Vous avez essayé de discuter avec elles, d'entamer un dialogue?
Oui, mais vous savez, dans notre boîte, il y a plusieurs directions. Elles, celles qui font ça, ce sont les assistantes du directeur général. Moi, je suis l'assistante du président du conseil d'administration.
D'accord.
Donc, on n'est pas dans le même département.
Oui. D'accord. Donc, c'est des rivalités éventuellement.
Mais vu que je suis la plus jeune des assistantes, donc elles me font des trucs qui ne sont pas jolis. Moi, j'ai l'âge de leur fille, donc elles devaient m'aider et me guider dans mes premiers pas, au lieu de me mettre des bâtons dans les roues.
Mais est-ce que ça, vous leur avez dit que finalement, elles n'accomplissaient pas leurs devoirs?
Ici parce que moi, je ne me laisse pas faire. Moi, je dis la vérité.
Ça, on a compris. On s'inquiète pas trop pour vous.
Peut-être que pour le bien du travail, éventuellement, et votre bien à vous, l'intérêt, c'est aussi de leur dire, et si on était un peu plus solidaires, parce que tout de même, toutes les quatre, si j'ai bien, enfin, les autres femmes et vous-même, vous êtes en position dominée par des patrons, tout de même. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous faire avoir.
Si je peux me permettre, évidemment, qu'il faut leur parler, mais il faudrait leur parler une par une.
Oui.
Faudrait pas leur parler toutes seules face aux trois autres parce que là, évidemment, elles vont faire bloc et il y a aucun moyen qu'elles tombent le masque. Hein, donc, c'est vraiment parler une par une.
Oui, oui. Et gentiment, pas forcément.
Elles me font croire que je suis leur amie, que je suis leur petite fille et tout.
Oui, bien sûr.
Mais il y en a deux qui sortent du lot. Elles me font voir clairement qu'elles ne sont pas d'accord avec moi.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous continuez de nous appeler les voisines au 33 1 84 22 71 71. On parle d'un sujet finalement assez inédit. C'est rare que le sujet soit abordé comme ça à la radio. 33 1 84 22 71 71 sur les rivalités féminines au travail. Annick Ouel, vous dites finalement que dans ces rivalités féminines au travail, il y a quelque chose qui se rejoue de la relation mère-fille. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Votre dernière fifi, là, vient de le dire. Hein, elles me prennent pour une petite fille, pour leur petite fille. Donc c'est tout à fait ça qui se joue quand il y a l'enjeu de génération en plus, qui arrive évidemment souvent, et ce qui arrive en particulier quand la hiérarchique supérieure a toutes les chances d'être dans un âge où elle pourrait être la mère. Alors ce qui est plus compliqué avec les filles et les fils, je dirais aussi tout à l'heure, Eva a dit « je suis une vraie maman avec eux, tout va bien, etc. Moi je préfère travailler avec les hommes ». Toutes les femmes qui sont mères, ou en tout cas qui sont pas des mères, sont des filles, c'est sûr, à un moment, on sait que la relation mère-fille est plus compliquée, plus passionnelle, plus riche aussi d'une certaine façon, que la relation d'une mère avec un fils. Donc c'est ça qui va se rejouer. Alors qu'avec les garçons,
De façon inconsciente.
De façon inconsciente. C'est
parce
aussi
qu'on se dit au travail, il n'y a pas d'affect, on n'est pas dans la famille.
Mais vous voyez que très vite on parle d'amour, hein, comme on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire être ou ne pas être aimé comme on l'a été ou pas par sa maman. Hein. Donc c'est ça qui se rejoue. Alors c'est plus ou moins conscient, ça on y est d'accord, mais ça peut être conscientisé. C'est-à-dire que dans les mots même qui sont là, on a réintérêt dans les entreprises à faire sortir ça. On l'a beaucoup fait avec les hommes, hein. Le père, le patron c'est le père, etc. Il faut reprendre ça du côté du spécifique féminin, à mon avis.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Anta qui est à Libreville au Gabon. Bonjour Anta.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute.
J'ai été, on va dire, nommée dans une entreprise, donc j'ai eu un poste à responsabilité. Et il s'avère qu'avant d'arriver dans ce poste à responsabilité, la relation, on va dire, était la suivante, c'est-à-dire que le directeur travaillait directement, on va dire, avec ses collaborateurs. Et le gros souci qu'il y avait, c'est que un grand nombre de ses collaborateurs venaient à peine d'être embauchés, alors que les anciens n'avaient pas cette relation directeur-collaborateur. Donc il y avait déjà cette tension qu'il y avait. Donc lorsque les postes à responsabilité ont été pris, on va dire que ces agents, ces jeunes agents, on va dire, n'avaient plus ce lien avec le directeur. Mmh. C'est-à-dire que le directeur passait par nous et c'était à nous de travailler avec les jeunes collaborateurs. Donc déjà, ça a créé un gros souci au sein de la structure. Mais on va dire que...
En quoi, Anta, là, il y a un problème de rivalité féminine? Vous nous parlez que de cas d'hommes.
Non, pas seulement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des hommes, il y avait également des femmes. Oui. Qui travaillaient directement avec le directeur, on va dire. Donc, lorsqu'il y a eu, on va dire, les postes à responsabilité ont été pris, donc il y avait des femmes qui sont arrivées, il y a eu ce souci entre, on va dire, directeur et les collaborateurs. Mmh. Et ce souci ne s'est généralisé qu'entre les femmes. Donc, ma collègue aussi, qui a un poste à responsabilité, a eu les mêmes soucis. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mauvaises langues. Il y avait une entente pas possible entre les femmes et, on va dire, les chefs.
Je retiens un mot dans ce que vous racontez de ce témoignage qui est compliqué, hein, parce que faut forcément les relations hiérarchiques dans les entreprises, etc., sont toujours complexes, les choses sont assez mouvantes, mais il y a le mot hypocrisie qui revient également dans d'autres témoignages. Annick Ouel, vous décrivez aussi, vous avez recueilli beaucoup de témoignages, l'hypocrisie, quelque chose qui revient assez souvent. On a même parfois l'impression qu'on est on est revenu à la cour de récréation finalement entre filles. Pourquoi est-ce que là on n'est pas dans du cliché, dès qu'on serait sur ces rivalités entre femmes, on serait davantage dans un type de régression des relations humaines ou pas ?
C'est le risque, en tout cas. Évidemment, les femmes ne sont pas que des petites filles, mais elles ont été des petites filles. Et c'est ça qui se rejoue, mais tout ça, c'est une affaire d'éducation. Hein. Au sens où, effectivement, dès la cour de récréation, les filles sont habituées, on les renvoie du côté des cancans, etc. On va pas se lancer dans les études qui ont été faites, mais c'est
ah bah,
c'est
en tout cas avec des relations complexes entre elles, voilà. Alors que les garçons, finalement, bah, se contentent de se tabasser, de se donner des
Patrick,
coups, c'est beaucoup plus clair.
Ils jouent les hommes, ils jouent la virilité. Les filles jouent la féminité exacerbée. Donc c'est ça qui va se retourner contre elles. C'est-à-dire qu'après, elles vont continuer à jouer ce jeu-là. Mais du coup, dans ce jeu-là, il y en a toujours une qui est meilleure que moi. Vous me direz, côté homme aussi, hein, du côté de la virilité. Mais sauf, j'insiste beaucoup là-dessus, qu'elles sont moins habituées quand elles tombent dans le monde du travail. Donc elles ne sont pas habituées à gérer ça. Et ce qui me semble, dans ce qu'a dit Anta, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est que ce qui s'est coupé, c'est un lien apparemment très fraternel entre les hommes, si j'ai bien compris. Et quand les femmes arrivent, tout ça saute en éclats. Et c'est ça le problème qui se passe à l'heure actuelle. C'est que les femmes, ça gêne. On n'est pas habitué. Là aussi, c'est une affaire d'habitude.
Ouais. Et Anta, est-ce que les hommes se plaignent du coup que, entre guillemets, les femmes viendraient mettre le bazar dans des relations qui étaient autrefois plus claires? Vous ressentez ça ou pas du tout?
Non, déjà, j'ai une petite correction à faire. Non, je n'ai pas parlé de fraternité. Ce que j'ai eu à dire, c'est que
c'est moi qui dis ça,
avant que les postes à responsabilité soient pris, il y avait, on va dire, le directeur s'adressait directement à ses collaborateurs, c'est-à-dire à ceux qui étaient là avant nous. Donc, il n'y avait pas de hiérarchie, en fait. Que ce soit les hommes ou les femmes, c'est comme ça qu'ils travaillaient. Maintenant, nous, on arrive, on a ses postes à responsabilité, donc ce qui fait que le directeur ne peut plus s'adresser à eux directement.
Mais le « nous », c'est les femmes, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, il y avait des hommes et des femmes dans le « nous », et je sais qu'il y a eu deux femmes, moi et une autre femme. Nos collaborateurs ont très mal vécu cela dans les femmes. On va dire nos collaboratrices femmes. Voilà.
Et donc ça a réinstauré de la hiérarchie, un lien moins indirect, le fait que les femmes arrivent et s'immiscent dans les interstices des hiérarchies, si j'ai bien compris. Anta, je suis désolée, il faut qu'on se quitte parce que je crois qu'il y a d'autres témoignages. Il y a pas mal de témoignages également postés sur le fil Facebook. Est-ce qu'il y a en France aujourd'hui des cas, Annie Couel et Patrick Charnitsky, est-ce qu'il y a des cas de harcèlement moral entre femmes qui arrivent en justice? Puisqu'on sait que aujourd'hui, on peut porter plainte en justice pour harcèlement moral. On a beaucoup l'image des hommes entre eux ou de l'homme harceleur patron vis-à-vis d'une femme.
Oui, en France en tout cas à l'heure actuelle, il y a beaucoup de plaintes pour harcèlement moral de femmes envers des femmes. Alors ça pourrait paraître étonnant, je dis bien moral, hein, pas sexuel. Donc ça c'est très important que ce ne soit pas sexuel, mais c'est logique puisque les secteurs en France et ailleurs sont très féminisés. Donc les femmes, elles travaillent entre femmes. Donc il est logique que les plaintes pour harcèlement moral se fassent contre des femmes. Alors pourquoi les femmes portent... Peut-être l'idée, c'est qu'elles portent plus plainte que les hommes. Hein. Faut bien garder ça en tête. C'est-à-dire que les hommes n'osent pas porter plainte pour harcèlement moral parce que c'est pas viril. Parce que ça veut dire qu'ils se plaignent, ils sont dans la plainte, alors que les femmes peuvent plus facilement endosser
si
des positions de victime.
Y compris si c'est vis-à-vis d'une femme patronne.
Oui, alors elles ont du mal un peu. Et d'ailleurs, ce qui est très très intéressant dans ce que j'ai pu étudier, c'est que les femmes qui sont à ce moment-là contre qui on porte plainte, les femmes portent plainte, sont extrêmement étonnées et extrêmement bouleversées. Ouais.
Est-ce que la justice leur donne raison dans ces cas-là, quand c'est un harcèlement moral entre femmes, ou la justice est plus réticente?
Non, pas plus réticente. Enfin, il n'y a pas assez de recul encore pour l'heure, mais elle n'est pas plus réticente. Ouais. Mais c'est surtout la grosse majorité des cas, puisqu'on est dans des secteurs... Ouais. Très, très, très féminisé.
Patrick Charnitsky, quand une femme dirigeante accède à un poste de direction, on lui propose en général une formation en management, mais est-ce que c'est spécifique au fait qu'elle soit une femme ou parce qu'elle accède à un poste de direction? Est-ce qu'on prend en compte le fait qu'elle va diriger d'autres femmes et qu'il va y avoir une question qui va se poser autour de ça?
En fait, il y a une posture un peu schizophrène, c'est-à-dire que à la fois les entreprises aujourd'hui ont des injonctions officielles, par exemple avec le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration et officieux avec des objectifs.
On a beaucoup progressé d'ailleurs.
Oui, alors avec le conseil d'administration est probablement pas le bon lieu pour faire ça, mais bon, c'est un autre débat. Donc il y a des injonctions bizarres, c'est-à-dire qu'on veut les faire monter et en même temps elles sont source de perturbations, clairement, parce que ça veut dire qu'elles ont une autre façon, elles ont pas été construites pareil. Donc évidemment qu'elles remettent en cause la façon dont on va se parler, la façon dont on va débattre en réunion, etc. Donc dans l'idéal, je pense qu'il y a une volonté un peu dans l'inconscient collectif qu'il serait que ces femmes, elles viennent prendre des places, mais sans rien bouger. Donc, en devenant des mecs, en devenant des hommes, c'est-à-dire en respectant les codes qui sont déjà installés. La psychologie est ainsi faite. On préfère toujours ce qui est déjà existant que la nouveauté. Bon. Donc, ça veut dire qu'on veut les faire monter, et à un autre niveau, il y a une injonction de masculinisation qui est totalement répartie dans l'inconscient. Donc, vous imaginez bien qu'on va pas les manager ou leur apprendre à rester elles-mêmes. Donc, inconsciemment, on accepte l'idée d'un déni. Et si elles deviennent des hommes, c'est pas plus mal, mais c'est très français, hein. C'est le modèle assimilationniste.
Parce qu'il y a un manque de savoir-faire aussi. Les consultants sont pas encore rodés à travailler sur ces questions-là. Alors, est-ce que ça se fait davantage aux États-Unis? On sait qu'il y a beaucoup plus de femmes patrons de grandes entreprises aux États-Unis. Est-ce qu'on est plus avancé sur ces questions-là ou pas du tout?
Les États-Unis ne sont pas plus avancés, en tout cas. Faut pas croire qu'ils sont plus avancés. On a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes chefs parce qu'on voit beaucoup de films. Mais il n'y en a pas tant que ça.
Attendez, il y a des femmes à la tête de grands groupes aux États-Unis. Mais alors, certes, on les compte sur les doigts.
Oui, mais la France est mieux placée.
Oui.
Et c'est les derniers chiffres.
Non, mais c'est vrai, c'est pas des stats qui sont révélatrices. Là, il y a une étude intéressante qui vient de montrer qu'on a une augmentation spectaculaire du nombre de femmes dans les comités exécutifs. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est uniquement le fait qu'il y a énormément d'entreprises qui sont passées de 0 à 1. Donc quand vous passez de 0 à 1, évidemment, vous faites exploser les statistiques. Mais en psychosocial, on sait très bien qu'une personne dans un comité exécutif de 15, elle n'existe pas. Elle peut pas exister. Ou alors, soit elle s'autocensure, elle parle pas, et les hommes se disent, à quoi bon la faire venir dans le COMEX si elle parle pas, soit elle devient un homme, et auquel cas, vous perdez le bénéfice de la mixité. Donc, ces chiffres-là sont très tronqués, hein.
Est-ce que c'est une question que se posent les femmes quand elles accèdent à des postes à responsabilité de quelle doit être leur posture pour manager d'autres femmes? Est-ce que ça, vous l'avez entendu ou pas?
Alors, moi non. Je pense qu'elles ne se posent pas la question, vraiment. Elles ne veulent pas rentrer dans ce débat.
Elles ne se posent pas la question en tant que femme, vous voulez dire. Tant que manager.
Mais parce qu'elles ne veulent pas rentrer dans le jeu qui est projeté sur elles depuis qu'elles sont toutes petites. Elles se sont battues.
On tourne en rond, finalement.
Elles ont les mêmes diplômes, elles sont formées, elles sont compétentes. Pourquoi voudriez-vous que d'un seul coup, elles se mettent à sexuer leur management en fonction de qui elles ont en face
d'elles? Alors, que faudrait-il pour avancer sur ces questions-là? Parce que je vous lis un dernier témoignage d'une internaute qui a peur de témoigner en direct, mais qui a envoyé ce message. Jeune diplômée, j'étais embauchée dans une entreprise, je m'entendais très bien avec le patron. Les collègues femmes se sont toutes liguées contre moi, m'accusant des pires choses, de coucher avec le patron, etc. Dès que je prenais un jour de repos, on m'accusait de sortir avec des hommes, j'ai fini par démissionner. Aujourd'hui encore, ça m'affecte, j'ai les larmes aux yeux rien que d'en parler. Et dans ma vie quotidienne, je suis plus recroquevillée sur moi-même, j'ai peur de tout. Que faudrait-il pour que les choses changent ?
Alors, je crois que, donc, je me répète, mais c'est effectivement parler. Elle aurait pas dû partir. Elle aurait dû au minimum faire exploser c'est facile à dire à sa place, hein. Mais faire exploser les choses, parce que du coup, les choses vont rester en l'état et la suivante qui sera à sa place va vivre les mêmes choses, hein. Donc, c'est de toute façon parler, des groupes de parole dans les entreprises et aussi ce qu'on appelle en psychologie, en tout cas, des groupes balines, c'est-à-dire d'obliger les managers à parler de leurs problèmes et à les gérer et à pouvoir les dépasser. Et les mentors, je pense qu'il y a une grande mode très américaine des mentors hommes, ce qui est pourquoi pas une bonne chose tout de même, mais avec le risque, ce que vient de dire Patrick, c'est que du coup ça pousse les femmes à se masculiniser. Mais je pense que maintenant la solution, c'est les mentors femmes, et on commence à en voir, en tout cas en France, et du coup ça fait des modèles d'identification pour les femmes positifs. Si elle a pu, je peux y arriver. Et ça, je crois que c'est capital.
Je voudrais que pour les femmes soient des conclure mentors. L'émission, je voudrais qu'on laisse la parole à une dernière voisine qui nous appelle, Christiane à Abidjan, qui est étudiante. Bonjour Christiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous souhaitez nous parler de votre dernier stage. Comment ça s'est passé?
Voilà, ça a été très laborieux pour moi. J'ai été dans une structure privée. Voilà, et là-bas, bon, la qualité de mon travail m'a donné des faveurs de la part de ma directrice des ressources humaines.
Ouais.
Tout le travail que ces assistantes étaient censées faire, elles me les confiaient et je les faisais à la perfection. J'apportais même un grain de plus. Voilà. Ah. Et j'ai vu dans le comportement de mes prédécesseuses, bon, elles sont employées, moi je suis stagiaire, mais j'ai vu que elles avaient un comportement bizarre.
Oui,
elle allait même à donner des contre-vérités sur mes résultats. Voilà.
Il faut dire que la stagiaire meilleure que les employés, quand même, c'est qu'il y a un problème dans la boîte, ou je ne sais pas.
Non, mais c'est la peur qu'elle prenne la place.
Ce qui est flagrant là-bas, c'est qu'il n'y a pas de formation. Mmh. Il n'y a pas de formation, elles sont âgées, elles sont là, mmh. la crise dans le travail.
Mais là, on est vraiment en plus sur un problème générationnel hein, qui a été décrit par une voisine de Dakar. Vous êtes jeune, vous êtes mieux formée.
Elle va prendre leur place, c'est sûr.
Vous avez entendu ce que dit Annick, vous allez prendre leur place, c'est ça.
Eh oui, c'est humain là, c'est pas féminin, c'est humain.
Voilà, ça, c'est le problème même majeur, parce que elle se plaignait parce qu'elle n'avait plus rien à faire. Même les photocopies et tout, voilà, c'était nous. Et malheureusement pour nous, quand il arrivait des fois où on déraillait, là c'était la catastrophe, elle prenait pour faire tout un plat, et c'est de la part de nos dirigeants, c'était flagrant parce que bon, on faisait des gaffes et tout et tout, et elle s'asseyait entre elles pour en débattre, pour en rigoler et tout.
Mais en même temps, ça veut dire aussi peut-être que ce que vous nous racontez, Christiane, c'est que peut-être les choses vont changer. Patrick Charnitsky, je vous laisse le mot de conclusion. On arrive vraiment dans quelques secondes à la fin de l'émission.
Bah, merci beaucoup, parce qu'effectivement, ça m'aurait embêté qu'on reste là-dessus. C'est-à-dire que ça, merci pour ce témoignage qui est cohérent avec les autres. Il faut absolument entendre que les choses bougent, hein, et que les choses évoluent considérablement. Ça va jamais assez vite, mais ça bouge. Je vais vous donner un exemple pour finir. Annick Ewell a parlé du mentorat. Moi, j'accompagne de plus en plus d'entreprises à former les mentors, à faire du tutorat de mentors pour permettre à ce que les mentors ne masculinisent pas les femmes. Et je peux vous garantir qu'il y a ne serait-ce que 3 ans, aucune entreprise m'aurait acheté une offre pareille.
Et donc, il faut rester dans la diversité, mélanger les hommes et les femmes, mélanger les cultures, etc. Merci à tous les deux. Annick Ewell, vous publiez Rivalité féminine au travail, l'influence de la relation mère-fille chez Odile Jacob. Merci à vous Patrick Charnitsky, psychosociologue, consultant en ressources humaines. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de l'émission sur l'écriture manuscrite. Peut-elle disparaître ? À l'heure actuelle, quasiment 100% des étudiants dans les amphis des facultés américaines prennent leurs cours sur leur ordinateur portable. À quoi sert de savoir tenir un stylo pour former des lettres ? On en discute demain les voisins.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens.